Quand j'avais un Tintin ouvert sur les genoux, personne ne savait que je lisais. On croyait que je me contentais de regarder les images. En secret, je lisais la Bible. L'Ancien Testament était incompréhensible, mais dans le Nouveau, il y avait des choses qui me parlaient. J'adorais le passage où Jésus pardonne à Marie-Madeleine, même si je ne comprenais pas la nature de ses péchés. Mais ce détail m'indifférait. J'aimais qu'elle se mette à ses genoux et qu'elle lui frotte les pieds avec ses longs cheveux. J'aurais voulu qu'on me fasse cela. La chaleur monta en flèche. Juillet commença avec la saison humide. Il se mit à pleuvoir presque tous les jours. La pluie, tiède et belle, me séduisit d'emblée. J'adorais rester des journées entières sur la terrasse, à regarder le ciel s'acharner sur la terre. Je jouais à l'arbitre de ce match cosmogonique, comptant les points. Les nuages étaient beaucoup plus impressionnants que le sol, et pourtant ce dernier finissait toujours par l'emporter car il était le grand champion de la force d'inertie. Quand il voyait arriver les superbes nuées chargées d'eau, il ruminait son leitmotiv. « Vas-y, rosse-moi, envoie-moi ton stock de munitions, mets-y la gomme, aplatis-moi, je ne dirai rien, je ne gémirai pas, il n'y a personne qui encaisse comme moi, et quand tu n'existeras même plus pour m'avoir trop craché dessus, moi je serai encore là. » Parfois, je quittais mon abri pour venir me coucher sur la victime et partager son sort. Je choisissais le moment le plus fascinant, celui de l'averse, le pugilat ultime, la phase du combat où le tueur frappe à la gueule au rythme de la grêle sans s'arrêter en un fracas retentissant de carcasses qui éclatent. J'essayais de garder les yeux ouverts pour regarder l'ennemi en face. Sa beauté était effarante. J'étais triste de savoir qu'il perdrait tôt ou tard. Dans ce duel, j'avais choisi mon camp. J'étais vendue à l'adversaire. Même si j'habitais la terre, j'étais pour les nuages. Ils étaient tellement plus séduisants. Je n'hésiterais pas à trahir pour eux. Nishio-san venait me chercher pour me forcer à me mettre à l'abri sous le toit de la terrasse. « Tu es folle, tu vas tomber malade !» Pendant qu'elle enlevait mes vêtements trempés et me frictionnait dans un linge, je regardais le rideau d'eau qui continuait son œuvre pléonastique, terrasser la terre. J'avais l'impression d'habiter un gigantesque car wash. Il pouvait arriver que la pluie l'emporte. Cette victoire provisoire s'appelait inondation. Le niveau d'eau monta dans le quartier. Ce genre de phénomène se produisait chaque été dans le Kansai et n'était pas considéré comme une catastrophe. C'était un rituel prévu et en vue duquel on s'organisait, en laissant par exemple les hauts miso, les honorables caniveaux, grands ouverts dans les rues. En voiture, il fallait rouler lentement afin d'éviter les trop fortes projections. J'avais l'impression d'être en bateau. La saison des pluies me ravissait à plus d'un titre. Le petit lac vert avait presque doublé d'étendue, engloutissant les azalées des environs. J'avais deux fois plus de place pour nager, et je trouvais délicieusement étrange d'avoir parfois un buisson fleuri sous le pied. Un jour, profitant d'une accalmie passagère, mon père voulut se promener dans le quartier. « Tu viens avec moi ?» demanda-t-il en me tendant la main. Ça ne se refusait pas. Nous partîmes donc tous les deux marcher dans les ruelles inondées. J'adorais me promener avec mon père, qui, perdu dans ses pensées, me laissait faire les bêtises que je voulais. Jamais ma mère ne m'eût autorisé à sauter à pieds joints dans les torrents du bord de la rue, mouillant ma robe et le pantalon paternel. Lui, il ne s'en apercevait même pas. C'était un vrai quartier japonais. Calme et beau, bordé de murs coiffés de tuiles nippones, avec les ginkgo qui dépassaient des jardins. Au loin, la ruelle se transformait en un chemin qui serpentait dans la montagne vers le petit lac vert. C'était mon univers. Il m'y fut donné pour la seule fois de mon existence de m'y sentir profondément chez moi. J'avais le bras en l'air pour tenir la main paternelle. Tout était à sa place, à commencer par moi, quand je m'aperçus que ma main était vide. Je regardais à côté de moi. Il n'y avait plus personne. La seconde d'avant, j'en étais sûre, il y avait là mon père. Il avait suffi que je détourne la tête un instant et il s'était dématérialisé. Je n'avais même pas remarqué le moment où il avait lâché ma main. Une angoisse sans nom s'empara de moi. Comment un homme pouvait-il se volatiliser ainsi? Les êtres étaient-ils des choses si précaires que l'on puisse les perdre sans motif et sans explication? En un clin d'œil, un tel monument humain pouvait-il disparaître? Soudain, j'entendis la voix paternelle qui m'appelait. D'outre-tombe, à ne pas en douter, car j'avais beau regarder autour de moi, il n'était pas là. Sa voix semblait traverser un monde avant de me parvenir. « Papa, où es-tu ? » « Je suis là, » répondit-il calmement. « Où, là ? Ne bouge pas, ne va surtout pas là où j'étais. Où étais-tu ? À 1 mètre de toi, sur ta droite. Que t'est-il arrivé ? Je suis en dessous de toi. Il y avait un caniveau ouvert, je suis tombée dedans. » Je regardais à côté de moi. Au milieu de la rue transformée en rivière, on ne distinguait aucune trappe. Mais à bien observer, on y voyait comme un tourbillon qui devait signaler l'ouverture des égouts. « Tu es dans le miso, papa ?» demandai-je avec hilarité. « Oui, ma chérie, » dit-il sereinement afin de ne pas m'affoler. Il avait tort. Il eut mieux fait de me paniquer. Je n'étais pas effrayée pour 2 sous. Je trouvais cet épisode du plus haut comique et je ne voyais pas où était le danger. Je fixais le trou d'eau qu'il avait englouti, m'émerveillant qu'il puisse me parler à travers ce rempart liquide. J'aurais voulu le rejoindre pour voir comment était son logis aquatique. « Tu es bien là où tu es, papa ?»« Ça va. Rentre à la maison et dis à maman que je suis dans les égouts, d'accord ?» me dit-il avec tant de sang-froid que je ne compris pas l'urgence de ma mission. « J'y vais. » Je tournai les talons et me mis à folâtrer. En chemin, je m'arrêtais, frappée par une évidence. Et si c'était ça, le métier de mon père ? Mais oui, bien sûr, consul, ça voulait dire égoutier. Il n'avait pas voulu me l'expliquer parce qu'il n'était pas fier de sa profession. Ce cachotier ! Je rigolais. J'avais enfin éclairci le mystère des activités paternelles. Il partait tôt chaque matin et revenait le soir sans que je sache où il allait. Désormais, j'étais au courant. Il passait ses journées dans les canalisations. À la réflexion, j'étais contente que mon père fasse un travail en rapport avec l'eau. Car, pour être de l'eau sale, ce n'en était pas moins de l'eau, mon élément ami, celui qui me ressemblait le plus, celui dans lequel je me sentais le mieux, même si j'avais failli m'y noyer. N'était-ce pas logique, d'ailleurs, que j'ai risqué de mourir dans celui des éléments qui parlaient le mieux ma langue ? Je ne savais pas encore que les amis étaient les meilleurs traîtres en puissance, mais je savais que les choses les plus séduisantes étaient forcément les plus dangereuses, comme se pencher trop par la fenêtre ou se coucher au milieu de la rue. Ces intéressantes pensées effacèrent jusqu'au souvenir de la mission que m'avait donnée l'égoutier. Je me mis à jouer au bord de la ruelle, à sauter à pieds joints dans de véritables fleuves en chantant des chansons de mon invention. J'aperçus sur un mur un chat qui n'osait pas traverser de peur de se mouiller. Je le pris dans mes bras et le posai sur le mur d'en face, non sans lui tenir un discours sur les plaisirs de la natation et les bienfaits qu'il en retirerait. Le matou s'enfuit sans me remercier. Mon père avait choisi une drôle de façon de me révéler son métier. Plutôt que de me l'expliquer, il m'avait emmené sur son lieu de travail, au fond duquel il s'était jeté en cachette afin de mieux ménager ses effets. Sacré papa ! Ce devait être là aussi qu'il répétait ses leçons de no. C'était pour cela que je ne l'avais jamais entendu chanter. Assise sur le trottoir, je fabriquais un bâton en feuilles de ginkgo et je le lâchais dans le courant. Je le poursuivis en trottinant. Bizarre, ces nippons qui avaient besoin d'un belge pour leurs égouts. Sans doute était-ce en Belgique qu'on trouvait les égoutiers les plus éminents. Enfin, tout ceci n'avait pas beaucoup d'importance. Le mois prochain, ce serait mon anniversaire de 3 ans. Si seulement je pouvais recevoir cet éléphant en peluche. J'avais multiplié les allusions pour que les parents comprennent mon souhait, mais ces gens-là étaient parfois bouchés. S'il n'y avait pas eu l'inondation, j'aurais joué à mon jeu préféré, ce que j'appelais le défi. Cela consistait à se coucher au milieu de la rue, à chanter une chanson dans sa tête et à rester là jusqu'à la fin de la rengaine sans bouger, quoi qu'il arrive. Je m'étais toujours demandé si je serais restée en cas de passage d'une voiture. Aurais-je eu le cran de ne pas quitter mon poste ? Mon cœur battait très fort à cette idée. Hélas, les rares fois que j'avais échappé à la surveillance adulte pour jouer au défi, il n'était venu aucun véhicule. Je n'avais donc pas eu la réponse à ma question scientifique. Après ces multiples aventures mentales, physiques, souterraines et navales, j'arrivais à la maison. Je m'installai sur la terrasse et me mis à faire tourner ma toupie avec acharnement. Je ne sais pas combien de temps s'écoula de cette manière. Ma mère finit par me voir. « Ah, vous êtes rentrée, » dit-elle. « Je suis rentrée seule. »« Où est donc resté ton père? Il est à son travail.
Il est allé au consulat? Il est dans les égouts.
Même qu'il m'avait demandé de te le dire.
Quoi?
Ma mère sauta dans la voiture en m'ordonnant de la guider jusqu'à l'égout en question.
Enfin vous voilà,
gémit l'égoutier. Comme elle ne parvenait pas à le hisser à la surface, elle appela à la rescousse quelques voisins, dont l'un eut la bonne idée de prendre une corde. Il la jeta dans le museau. Mon père fut tracté par quelques fiers à bras. Un attroupement s'était constitué pour voir émerger le Belge Anadyomène.
Cela valait le détour. Comme il y a des bons hommes de neige, on eût cru un bonhomme de boue. L'odeur n'était pas mal non plus. Vu l'étonnement général, je compris que l'auteur de mes jours n'était pas égoutier et que j'avais assisté à un accident. J'en éprouvais une certaine déception. Non seulement parce que j'avais trouvé plaisante l'idée d'avoir de la famille dans les eaux usées, mais aussi parce que je retournais à la case départ dans mon élucidation du sens du mot « consul ». La consigne fut de ne plus se promener à pied à travers les rues avant la fin du déluge. L'idéal, quand il pleut sans cesse, c'est encore d'aller nager. Le remède contre l'eau, c'est beaucoup d'eau. Je passais désormais ma vie au petit lac vert. Nishio-san m'y accompagnait chaque jour, cramponnée à son parapluie. Elle n'avait pas renoncé à défendre le parti du sec. Moi, d'entrée de jeu, j'avais choisi le parti opposé. Je quittais la maison en maillot de bain pour être mouillée avant de nager. Ne jamais avoir le temps de sécher, telle était ma devise. Je plongeais dans le lac et n'en sortais plus. Le moment le plus beau était l'inverse. Je remontais alors à la surface pour faire la planche et recevoir la sublime douche perpendiculaire. Le monde me tombait sur le corps entier. J'ouvrais la bouche pour avaler sa cascade. Je ne refusais pas une goutte de ce qu'il avait à m'offrir. L'univers était largesse et j'avais assez soif pour le boire jusqu'à la dernière gorgée. L'eau en dessous de moi, l'eau au-dessus de moi, l'eau en moi, l'eau, c'était moi. Ce n'était pas pour rien que mon prénom en japonais comportait la pluie. À son image, je me sentais précieuse et dangereuse, inoffensive et mortelle, silencieuse et tumultueuse, haïssable et joyeuse, douce et corrosive, anodine et rare, pure et saisissante, insidieuse et patiente, musicale et cacophonique. Mais au-delà de tout, avant d'être quoi que ce fût d'autre, je me sentais invulnérable. On pouvait se protéger de moi en restant sous un toit ou un parapluie sans que cela me perturbe. À court ou à long terme, rien ne pouvait m'être imperméable. On pouvait toujours me recracher ou se blinder contre moi, je finirais toujours par m'infiltrer. Même dans le désert, on ne pouvait être absolument sûr de ne pas me rencontrer, et on pouvait être absolument sûr d'y penser à moi. On pouvait me maudire en me regardant continuer à tomber au 40e jour du déluge sans que cela m'affecte davantage. Du haut de mon expérience antédiluvienne, je savais que pleuvoir était un sommet de jouissance. Certaines personnes avaient remarqué qu'il était bon de m'accepter, de se laisser inonder par moi sans chercher à me résister. Mais le mieux, c'était carrément d'être moi, d'être la pluie. Il n'y avait pas plus grande volupté que de se déverser, crachin ou averse, de fouetter les visages et les paysages, de nourrir les sources ou déborder les fleuves, de gâcher les mariages et fêter les enterrements, de s'abattre à profusion, don ou malédiction du ciel. Mon enfance pluvieuse s'épanouissait au Japon comme un poisson dans l'eau. Lassée par mes interminables noces avec mon élément, Nishio-san finissait par m'appeler. « Sors du lac, tu vas fondre !»
Trop tard, j'avais déjà fondu depuis longtemps.
Août.
« Mushiatsui !» se plaignait Nishio-san. En effet, la chaleur était celle d'une étuve. Liquéfaction et sublimation se succédaient à un rythme insoutenable. Mon corps amphibie se réjouissait. Il était bien le seul. Mon père trouvait infernal de chanter par cette chaleur. Lors des représentations en pleine nature, il espérait la pluie afin qu'elle interrompît le spectacle. Je l'espérais aussi, non seulement parce que ces heures de noeuds m'accablaient d'ennui, mais surtout pour la joie de l'averse. Le grondement du tonnerre dans la montagne était le plus beau bruit du monde.